tu l'as dit, tu es reçu au service Action de la DGSE. Est-ce que tu peux, pour les néophytes, et moi le premier, nous dire ce que c'est exactement que le service Action de la DGSE ?
C'est le service Action, c'est l'un des services de la DGSE, qui et c'est celui qui conduit toutes les opérations clandestines, c'est-à-dire celles que l'État français ne souhaite pas reconnaître. Et donc, ce sont évidemment des actions.
Le Rainbow Warrior, par exemple, c'était ça.
Oui, ce sont des actions violentes de neutralisation de personnes, de destruction de cibles ou de matériel, de d'interpellation. Enfin, voilà, s'il faut enlever des personnes pour les livrer à tel endroit, pourquoi pas à la justice. Et donc, en tout cas, la vocation du service action, c'est de protéger la démocratie française en luttant contre ceux qui ne respectent pas les règles démocratiques. Typiquement, à l'époque, pendant 10 ans, c'était le terrorisme islamiste, c'était le terrorisme algérien. Voilà, on luttait contre les GIA, voilà, en particulier.
Je ne te poserai pas plus de questions là-dessus. Déjà, parce que je suppose que tu ne peux pas en parler.
Non, en effet. Et j'ai, comme tous mes anciens camarades, j'ai signé à l'époque des engagements de confidentialité et je m'y suis tenu et je m'y tiendrai, y compris dans le bouquin que je suis en train d'écrire où, je donnerai quelques anecdotes, mais qui seront démarquées de lieu, il n'y aura pas de possibilité de recoupement. Et tout ce que je dirai, en fait, est globalement déjà connu parce que pour moi, c'est important j'étais pas un mercenaire, j'ai fait ce métier par choix, par vocation, et parce que je respectais aussi un certain nombre de valeurs, et du coup, pour moi, c'est important de respecter cette confidentialité à laquelle je me suis engagé.
Il y a dans la formation, là aussi, je sais pas si tu peux en parler, mais dans la formation, il y a des choses, je suppose qu'il y a des choses bien particulières à ce service-là.
Oui, c'est toutes les activités les plus baroques et qui n'ont rien de militaire. Voilà, comment se déguiser, comment faire des filatures, comment rompre des filatures, comment piéger avec des matériels de fortune, comment tuer avec une petite cuillère, comment faire poser des avions, comment guider des équipes qui viennent d'un sous-marin par la mer, comment exfiltrer des personnes par mille et une manières d'un pays dangereux, etc., etc.
Et tu y restes combien de temps ?
J'y resterai 8 ans.
8 ans, d'accord. Et après, donc, bascule dans les forces spéciales, si j'ai bien compris.
Voilà, et après ça, effectivement, je quitte le service action pour rejoindre les forces spéciales. Bon, la grande différence entre les deux, c'est que le service action chargé des opérations clandestines, donc celles qui ne sont pas revendiquées par l'État français, et il est placé, alors donc ils sont couverts, leurs missions sont...
Pour ceux qui ne savent pas, DGSE, c'est Direction Générale de la Sécurité Extérieure.
C'est ça, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. C'est la centrale de renseignement française. Et donc, les opérations du service action sont couvertes par le secret défense et ce service est, la DGSE est rattachée au pouvoir politique. Voilà. Inversement, les forces spéciales, elles n'en sont pas chargées des opérations clandestines puisque les opérateurs des forces spéciales ne sont pas formés à la clandestinité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de couverture, de légende, etc. Ce qui est l'apanage des agents secrets. En revanche,
juste pour mon kiff, tu as eu une légende ?
Ah ben évidemment, comme tous les agents, j'avais plusieurs légendes en fait. Comme certains agents, j'avais plusieurs légendes.
Tu étais déjà ma rockstar, tu deviens, je sais pas quoi. Mais... Donc les forces spéciales.
Johnny sort de ce corps. Donc les forces spéciales, elles, couvertes par le confidentiel défense et pas le secret défense, ouais. Pour des missions discrètes qui dépendent directement du chef d'état-major des armées. Voilà. Avec une grande différence, c'est qu'un agent secret fait l'essentiel de ses missions seul, puisque même quand une équipe d'agents est sur le terrain, il n'y a pas de contact physique entre eux, pour éviter que si l'un d'entre eux était capturé, torturé, il ne puisse dévoiler le nom et la localisation des autres membres de l'équipe. Alors que dans les forces spéciales, l'équipe minimum, c'est le trinôme. Il n'y a jamais un agent qui travaille seul. Et du coup, ça donne en termes de sentiment de sécurité, de sentiment d'appartenance, de puissance du collectif. Moi, j'ai appris énormément dans ce monde des unités spéciales, des forces spéciales.
Et ça, on est en quelle année?
Et là, on est en 2001, en fait, à l'été 2001, mois d'août 2001,
juste avant septembre.
Voilà, je rejoins le commandement des opérations spéciales, arrive le 11 septembre 2001, et le 3 novembre 2001, je pars à la tête du premier détachement français de forces spéciales. C'est le jour de mon anniversaire. Voilà, c'est le cadeau que m'offre le général commandant les opérations spéciales. Et à partir de là, je vais enchaîner 5 années de missions non-stop dans de tout type. Voilà, et des missions passionnantes. Alors en Afghanistan beaucoup, parce que j'en aurais fait 5 en tout. Je crois que j'ai dû passer 14 mois en tout en Afghanistan, en 5 missions. Et puis plein d'autres théâtres d'opérations sur des missions complètement différentes. Voilà, 5 années passionnantes où j'ai appris, où vraiment là pour le coup j'ai appris ce que c'était que de mettre en puissance l'humain et de délivrer de la puissance collective. Voilà. Nous, tu vois, on considère qu'un opérateur des forces spéciales est capable d'agir en infériorité numérique à 1 contre 3. Et évidemment, ce qui fait la différence, c'est pas ses équipements, c'est pas seulement ses procédures. Ce qui va faire la différence, c'est la capacité de chacun. C'est la confiance en soi, la confiance en l'équipe et la capacité de chacun à faire que la puissance du collectif devient bien plus que la somme des puissances individuelles.
Ouais, t'as un vrai effet multiplicateur. Ouais.
Yeah.
Et alors, je crois que je t'ai entendu le raconter dans une de tes conférences, parce que tu es aussi conférencier, où tu racontais une de tes pires nuits en Afghanistan, où finalement tu te retrouvais en tant que chef opposé à tes hommes. Tu te souviens de cette anecdote ou pas?
Oui.
Enfin, cette anecdote,
c'est un peu faible. Oui, il y a très très longtemps que tu m'avais dû entendre raconter ça, mais oui.
Mais moi, je bois tes paroles depuis des années, Olivier.
Alors.
Mais tu vois, je t'ai entendu une fois la raconter, et pour preuve qu'elle est marquante, c'est que ça doit faire allez, 5-6 ans peut-être que tu as raconté ça. Et pour moi, elle est ancrée dans mon esprit, cette histoire, tu vois.
Oui, ça fait au moins 5-6 ans. Alors, je peux comprendre qu'elle soit ancrée dans ton esprit, parce qu'en fait, elle parle de la solitude du chef, et elle parle de l'autorité, elle parle de la nécessité de l'acceptation d'être impopulaire à un moment. En tout cas, c'est pas d'être impopulaire, mais de prendre une décision impopulaire, parce que finalement, ça m'a pas du tout nui, mais bon, en gros, tu veux que je te raconte ça ou...
Ah ouais, je partage ça, enfin, je pense que c'est...
En fait, pour faire court, on vivait donc en Afghanistan, on combattait aux côtés des forces spéciales américaines et des factions afghanes de l'Alliance du Nord. L'une des factions aux côtés de laquelle on combattait à une époque, on était assez proche d'eux, et l'un des membres de cette équipe qui s'appelait Hamid était particulièrement proche de mon détachement, parce que c'était un jeune gars mais qui avait déjà au moins 4 enfants comme toujours là-bas. Et lorsqu'un jour on s'était approché du Panjshir dans son village natal, on avait passé une ou deux nuits de bivouac là-bas. Il nous avait servi notre premier plat de viande. Voilà, on n'avait pas mangé de viande depuis très très longtemps. Mmh. Et en fait, on s'était rendu compte au petit matin qu'il avait, on avait mangé de la chèvre en l'espèce, et on s'était rendu compte qu'en fait, il avait égorgé la seule chèvre qui nourrissait sa famille. Voilà. Mmh. Et ça veut dire que ce lait donnait à manger à ses enfants, et que ce gars, la tradition de l'hospitalité tellement puissante dans ce pays magique. Reconnaissance de cet homme qui est heureux qu'on combatte à ses côtés contre les talibans, décide, voilà, ce geste extrêmement fort pour nous. Voilà, on ne savait pas comment faire pour le remercier, on était extrêmement gênés après coup. Ça avait créé un lien très fort avec lui. Et puis, quelques mois plus tard, en fait, quelques semaines plus tard, dans des combats, en fait, il finira égorgé. Parce qu'il est pris en otage avec quelques membres de cette faction, et quand on parvient à reprendre la position, en fait, voilà, on découvre les corps sans vie de nos camarades afghans, et les quelques talibans rescapés sont retranchés dans une grotte à quelques centaines de mètres de notre position. Et dans la nuit, à un moment, mes hommes décident, je le fais court, mais voilà, en gros, ils décident d'aller rendre justice à Hamid en allant nettoyer la grotte. Voilà. Alors, on est en pleine guerre, ça tire de tous les côtés, j'aurais pu dire oui, mais à ce moment-là, j'ai estimé que je devais dire non. Je l'ai estimé pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce que j'avais appris au service action et que j'ai gardé pour toujours, voilà, qui m'a accompagné dans toute mon expérience militaire, c'est qu'on ne chasse pas les loups avec des chacals, on les chasse avec des chasseurs qui ont certes passé un permis de tuer, mais pas n'importe comment. Sinon, on devient les loups qu'on combat nous-mêmes. Donc, ça n'a plus de sens. Je voulais aussi revenir au sens en rappelant que officiellement nous n'étions pas présents et à l'époque on jouait au chat et la souris avec des journalistes français qui avaient entendu dire sur place que des militaires français étaient présents alors que la France ne reconnaissait pas, la France démentait parce que pour se protéger elle ne voulait pas reconnaître que des commandos étaient infiltrés en Afghanistan. Ouais. Voilà. Et donc je leur ai dit voilà, on est encore en pleine guerre, on est tous en vie. Cette grotte, elle est forcément piégée. Notre mission, c'est pas à nous d'aller faire ce boulot-là. Nous, on est là aux côtés des Afghans, mais c'est pas à nous d'y aller. Et en tout cas, certainement pas dans cet état d'esprit-là pour rendre justice. Quelle justice, en fait? Tu veux te faire justice pour rendre ta justice à toi? Mais est-ce que c'est ça la justice? Et donc, si on fait ça, on risque d'avoir des pertes. Et comment on fera? Et si on y reste? Et que demain, le corps des militaires français est exhibé sur CNN, comment on met en difficulté le gouvernement français. Et voilà, est-ce que vous êtes OK pour que vos familles assument le fait que, parce qu'on a pris cette décision à cause de nous, c'est toute la politique de la France qui est voilà, remise en question, etc., et sa parole. Enfin voilà, on a passé une nuit et je me suis opposé voilà, tout au long de cette nuit, pour toutes ces raisons, éthiques, diplomatiques, le sens de la mission, etc. Et au final, ça a été une nuit où, petit à petit, j'ai vu basculer mes hommes qui sont revenus, voilà. Je ne sais pas si c'est à la raison, mais en tout cas dans mon camp, et en disant « Oh oui, commandant, vous avez raison, je demande pardon. » Bon. Et il y en a qu'un le matin qui était plus tout seul, en fait, mais qui aurait aimé y aller. Bon, évidemment, il ne pouvait pas. Et qui m'a fait la gueule pendant tout le reste de la mission. Et ça a été dur parce qu'on était un petit détachement, on encaissait beaucoup de coups, on était extrêmement cohésif. Et en fait, cette décision, elle a momentanément dégradé la cohésion dans mon équipe. Oui. Et c'était super dur de me sentir responsable de cette baisse de la cohésion, alors que j'avais le sentiment que ma décision était juste. Et puis finalement, l'équipe s'est ressoudée, tout ça est reparti, et puis ça a à nouveau bien fonctionné, mais ça a mis quelques jours. Et au final, ce qui est rigolo, c'est que dans l'année qui a suivi notre retour en France, en fait, tous mes hommes sont venus me voir. À l'époque, on était à Taverny, eux venaient essentiellement de Lorient et de Saint-Mandrier. Ils venaient me voir en me disant « Commandant, je voulais vous dire merci, en fait, pour le jour où vous avez dit non. En fait, vous aviez raison. » Et l'un des derniers, c'était pas le dernier, mais l'un des derniers qui venait, parce qu'il passait par là, c'était ce gars que j'aimais énormément, en plus cet officier marinier, c'était un mec qui savait tout faire, tu sais, t'as toujours un peu des gars avec qui tu t'entends particulièrement bien, et lui, jusqu'alors, on s'entendait, mais super bien. Et c'était dur de voir qu'il continuait de me faire la gueule, pendant 2-3 jours, il me parlait plus, quand je lui donnais des ordres, il répondait « reçu ». Tu vois, il ne me parlait plus. Bon. Et finalement, il est venu me voir un jour, et il m'a dit « je vous demande pardon, en fait, j'étais un con ». Et vous aviez raison, et je vous demande pardon. Voilà, on est tombé dans les bras l'un de l'autre, on avait l'œil humide et on est parti boire des bières.
Tu vas me faire chialer.